Stephen King aime l'extrémisme religieux, Stephen King aime le popcorn, Stephen King a écrit Les démons du maïs et Fritz Kirsch l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris, quelle surprise!
Ah oui, n'est-ce pas, on commence à s'y habituer au bout d'un moment.
C'est ça, bon, on le rappelle des fois qu'il y a des gens qui débarquent, bienvenue dans ce cas.
Oui, bienvenue!
Et s'il y a des gens qui débarquent, sachez que ce n'est pas tout à fait la première fois que nous parlons des démons du maïs, enfin des enfants du maïs ou des démons du maïs dans les films, puisque c'est le quatrième épisode que nous consacrons à cette série.
Ça commence à faire.
Ouais, on a déjà traité donc du remake de Donald P. Borchers, du quatrième opus de la série principale, et du dernier film en date, sans compter celui qui n'est pas encore distribué actuellement. Voilà.
Et la magie du bordel, c'est qu'on est encore tombé sur aucun bon film.
Ouais, si, un peu, le tout dernier...
Ah oui, c'est... Oui,
bon. Runaway, ça allait.
Oui, j'ai dit bon, j'ai pas dit...
Oui, c'était pas excellent, mais c'était plutôt sympathique.
C'est vrai que je sors à l'instant de deux films extraordinaires qu'on va aborder dans cet épisode et dans le prochain.
Non mais c'est ça, on apprend à relativiser aussi.
Au bout d'un moment, oui.
Bon, qu'est-ce qu'on fait, on y va?
Bah écoute, on est là pour ça, non? On s'est levé tôt un dimanche matin pour...
Donc on ne va pas reparler de la nouvelle, évidemment. Sachez juste qu'elle est à la 16e place sur 22 œuvres que nous avons traitées. Vous pourrez réécouter le premier épisode consacré au démon du maïs de Donald P. Borchers si vous voulez en savoir plus sur nos raisons. Et on va passer directement au film que nous allons spoiler, bien entendu. C'est parti. Every child is afraid of the dark, the unknown. The nightmare. In Gatlin, Nebraska, that nightmare is in the corn. Stephen King's Children of the Corn.
Praise God! Praise the Lord!
Stephen King, the author of Carrie, The Shining, The Dead Zone, and Christine, an adult nightmare. Children of the Corn.
I'm here, Lord! I'm ready!
Stephen King's Children of the Corn, an adult nightmare.
Alors, le résumé du film, bah, c'est le même que la nouvelle. C'est un couple qui voyage dans une partie paumée des États-Unis, qui tombe sur une ville qui a l'air abandonnée et qui se rend compte que c'est pas de chance parce qu'il y a des enfants qui ont un culte démoniaque qui consiste à tuer tous les adultes. Voilà.
C'est quand même ballot.
Sauf deux enfants qui sont gentils. En fait, sauf les seuls vrais enfants qui sont gentils. Au départ, les droits des démons du maïs, enfin des enfants du maïs, pardon, de la nouvelle, ont été achetés par Al Rock Studio pour environ 500$, et le premier script qui a été écrit pour cette nouvelle était de King lui-même. Il était plutôt motivé en fait à l'idée qu'il y a un film adapté de son œuvre et qu'il soit produit dans le Maine, avec une équipe locale, parce que c'était le projet à la base de Al Rock Studios. Dès cette étape, j'ai l'impression, les infos sont un peu contradictoires, mais que le producteur Donald P. Borchers était impliqué sur le projet, et donc c'est un producteur que nous avons déjà évoqué, puisque des années plus tard, insatisfait en le regardant avec un nouveau regard de ce premier film, il réalisera lui-même un reboot de la série en corrigeant, en tout cas ce sont ses termes, les erreurs qu'il considère comme étant de sa responsabilité, c'est-à-dire il considère que c'est lui qui a incité à trop s'éloigner de la nouvelle de base. Et effectivement, son remake, lui, sera très 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 proche du texte de King. On s'en rappelle.
Très, voire trop.
Ouais, un peu trop, même.
Un peu trop pour un film de 1h30, quoi.
C'est ça. Le scénario de King ne plaisait pas au producteur, qui engage un autre scénariste, George Goldsmith, pour le réécrire. Et donc c'est lui qui va introduire les personnages, notamment de Sarah et Job, donc ces deux petits-enfants qui sont un peu en marge du culte principal et qui sont beaucoup plus gentils que tous les autres. Et il supprime aussi, d'après ses propres dires, les 35 premières pages du scénario de King qui était la dispute du couple dans la voiture. Voilà, donc ça commençait sur une demi-heure de dispute, le film tel que pensé par King. Ce qui aurait été peut-être encore plus chiant que ce qu'on a en fait.
Bon. Bah, c'est un peu le début du film de Borcher. Hein.
Ouais, c'est le début du film de Borcher en fait.
Ça dure peut-être pas 30 minutes, mais quand même.
Et donc King est assez mécontent de ces changements. Enfin, pas mécontent, il l'a pas non plus trop râlé sur le film, mais disons qu'il s'y retrouve plus, donc il décide de quitter le projet. Et apparemment, Goldsmith et King ont discuté de leurs approches respectives à ce sujet-là, King faisant le reproche à Goldsmith de ne pas comprendre le genre horrifique, et Goldsmith reprochant à King de ne pas comprendre la dimension visuelle du cinéma, mais visiblement ils sont restés quand même en bons termes, et Goldsmith est assez reconnaissant à King d'avoir toujours été assez réservé lorsqu'il parlait de ce film. Et effectivement, autant il y a quelques adaptations sur lesquelles King est très 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 critique, notamment Shining, hein, on y revient toujours. Mmh. Autant sur les démons du maïs, il dit assez clairement qu'il aime pas et qu'il trouve ça bancal, voire ridicule, mais il a jamais été dans l'attaque trop violente. Le projet est vendu à New World Pictures, qui est une compagnie qui avait été fondée par Roger Corman, mais il l'avait quitté à l'époque, il quitte la compagnie en 1982. Et justement, du coup, le départ de Corman entraîne une restructuration de la compagnie qui cherche un peu à se donner, on va dire, une nouvelle crédibilité. Ce bon Roger Corman, tu le sais comme moi, c'est des films très petit budget, très série B, et disons qu'elle cherchait à se donner un peu plus de prestige à l'époque comme compagnie. S'ils sont allés vers cette compagnie, c'est parce que le frère de Donald Borcher y travaillait, et c'est le scénario de Goldsmith qui est choisi, même si la production essaiera de mettre le nom de King au scénario sans succès. Ce sera King dira non, même si pour le coup il ne demandera pas à ce que son nom soit totalement supprimé de celui-là.
Oui, pas comme pour le cobaye.
D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a une faute d'orthographe à son nom au générique.
Ah non, je peux vous dire.
Il est mentionné comme étant Steven, S-T-E-V-E-N, King.
Ah d'accord, non pas Stephen.
Oui, alors après, normalement ça se prononce Steven dans les deux cas, à l'anglaise, mais... Enfin, ils auraient pu vérifier sur la couverture du livre, je sais pas. Le scénariste Goldsmith déclare que pour lui, le film est une métaphore de la révolution iranienne quand le pouvoir a été pris par des extrémistes religieux, donc après la chute du Shah, et qu'il voulait exprimer le danger du fanatisme via ce film, ce que peu de critiques auraient compris. Alors bon, autant le message sur l'extrémisme, il me paraît totalement évident, autant effectivement, j'ai pas pensé particulièrement à la révolution iranienne en voyant ça.
Non, moi non plus. Bah après, peut-être qu'à l'époque, on y aurait un peu plus pensé.
Ouais, à l'époque, c'était peut-être un peu plus dans la mémoire collective, ouais, effectivement.
C'était plus frais, donc...
La production va devoir se faire très rapidement, pour trois raisons. La première, c'est des raisons de droit, les droits allaient arriver à expiration. La deuxième, c'est que New World Pictures avait besoin de pognon. Et la troisième, c'est que le maïs allait être coupé, et ils auraient dû attendre beaucoup trop longtemps si ils tournaient pas vite, en fait. Ils avaient une fenêtre assez limitée dans l'année. Et donc seulement 5 semaines après que les droits aient été rachetés par New World, le tournage débute dans l'Iowa, et le réalisateur choisi par Donald P. Borcher, c'est Fritz Kirsch, dont c'est le premier long métrage, et dont je ne connais rien du tout dans le reste de la filmographie. Je constate juste qu'il a collaboré de nouveau avec New World par la suite, ainsi qu'avec la Canon sur un film appelé Gore, G-O-R.
D'accord.
Donc voilà, des compagnies de prestige. Je sais pas quel prestige, mais un prestige. Je suppose que c'est lui qui a ramené Terence Kirby, qui est l'autre producteur du film, puisqu'ils avaient fondé ensemble une compagnie appelée le Kirby Kirsch Film Group, qui est spécialisée dans les films d'entreprise et les pubs.
C'est une très longue boisson, le Kirby Kirsch.
Un peu, ouais, on est d'accord. Ça donne presque envie de goûter. Au casting, dans le rôle de Vicky, on a Linda Hamilton, qui était encore en début de carrière à l'époque. En fait, c'est son deuxième film au cinéma, d'après Wikipédia, mais ça sort la même année que Terminator. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est Terminator ou est-ce que c'est ce film-là qui a participé à son succès ?
Ouais.
Hein, évidemment, hein, les deux sont à peu près au même niveau, hein, niveau prestige et mémoire collective.
À niveau qualitatif, les deux sont top.
Bon, alors clairement, c'est une bonne actrice, mais c'est le rôle de Sarah Connor qui est le plus emblématique de sa carrière. En préparant l'émission, j'ai découvert qu'elle avait joué dans une série télé dans les années 80, librement adaptée de La Belle et la Bête, et où c'est Ron Perlman qui joue la bête.
Ah tiens.
Tu le connais ?
Pas du tout, mais ça m'intéresse tout d'un coup.
Bah, ça s'appelle La Belle et la Bête.
Avec Ron Perlman.
Voilà. Avec Ron Perlman. Dans le rôle de Bert, on a Peter Horton, qui est un acteur surtout actif à la télévision, en dehors de ça. Il a joué dans Nos plus belles années, le soap par exemple, mais il a aussi été pas mal réalisateur à la télé, entre autres pour The Shield et Grey's Anatomy.
D'accord.
Et il a été marié pendant plusieurs années à Michelle Pfeiffer, avec qui il apparaît dans un film appelé Cheeseburger Film Sandwich, un film à sketch dont il a aussi réalisé un segment et où, dans lequel on trouve aussi à la réalisation John Landis et Joe Dante. Mais je ne connais pas du tout.
Un film plutôt connu, de nom en tout cas. Moi non plus je l'ai pas vu, mais j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois.
Alors le truc, c'est qu'il y a un autre film qui s'appelle Hamburger Film Sandwich. Donc, je me demande si c'est pas plutôt celui-là qui est connu. Ah. Et qu'ils ont surfé sur la vague pour produire l'autre. Isaac, donc, qui est un peu le messie des enfants démoniaques, est joué par John Franklin. Et donc John Franklin, ce n'est pas du tout un enfant, il avait 25 ans à l'époque, mais il souffrait de soucis d'hormones de croissance, ce qui fait qu'il pouvait à peu près jouer des rôles d'enfant. Je trouve pas ça méga crédible, on sent qu'il a pas du tout l'âge du rôle, mais bon. Il rejouera Isaac dans Children of the Corn 666 en 1999, donc le sixième opus de la saga, qu'il a également coécrit. Et comme beaucoup d'acteurs de petite taille, il joue des rôles très connotés, très typés en fait. Donc c'est lui qui fait la doublure de la poupée de Chucky dans certains plans de jeux d'enfants.
Ah.
Voilà.
Bah, au moins il a joué dans un grand film.
Ouais, et dans d'autres films très bien, parce que c'est lui qui joue le cousin machin dans les deux films Famille Adams.
D'accord.
Qui sont plutôt des chouettes films.
Bah oui.
Et dans les années 2000, il s'est plutôt concentré sur l'enseignement, il est devenu prof d'anglais, et je crois qu'il est revenu à une carrière d'acteur depuis quelques années. Dans le rôle de Malakai, l'autre... enfant du maïs, c'est des adolescents en réalité. Assez important, il y a Courtney Gaines, donc 19 ans à l'époque, c'est son premier rôle au cinéma, et depuis il a continué sa carrière, surtout dans des seconds rôles. Et son seul rôle que je connais en dehors de ça, c'est il joue un des voisins mystérieux dans The Burbs de Joe Dante.
D'accord.
Voilà, donc dont on parlait à l'instant en off avec Chris. Et il a rejoué aux côtés de John Franklin dans un film qui s'appelle Hell's Kitty en 2018.
Hell's Kitty ?
Ouais.
Un film d'attaque de chat ?
Je sais pas du tout.
ou un porno.
J'espère que c'est un porno. Il raconte qu'il a eu le rôle de Malakai en menaçant une partie des personnes présentes à son casting avec un faux couteau.
Ah,
et que du coup, ils l'ont trouvé crédible.
C'est Jared Leto avant l'heure, quoi.
Ouais, c'est ça. Même niveau talent, hein, c'est un peu du Jared Leto.
C'est ça. Oh, ça tire à balles réelles par ici.
C'est ça. Ah. Il le mérite. Les deux seuls vrais enfants du film, qui, comme on l'a dit, sont plutôt gentils, sont interprétés par Robbie Keegar et Anne-Marie McEvoy, qui ont tous les deux une carrière assez réduite en dehors, puisqu'ils se sont tournés, je suppose, vers autre chose une fois arrivés à l'adolescence ou à l'âge adulte. Donc je vais pas insister sur eux. Le directeur de la photographie, on en a déjà parlé, c'est Joao Fernandez, qui là est sous le pseudonyme de Raoul Lomas, et qui officiera plus tard sur le journal d'Hélène Rimbauer, c'est pour ça qu'on l'a déjà évoqué. Bon, en dehors de ça, donc comme on l'avait dit, il a fait du film de genre, des films de Chuck Norris et des pornos. Voilà.
Voilà. Un domaine où la photo est très importante.
Oui, essentiel, je dirais même. La musique est de Jonathan Elias, dont on a aussi parlé puisqu'il sera de retour sur le remake de Borchers, il reprendra d'ailleurs son thème à l'occasion. C'est une musique... C'est tout ce qu'on peut attendre d'une musique de film d'horreur des années 80, donc on va avoir les thèmes... Un peu mignon, mais un peu inquiétant en même temps.
Chanté par des enfants.
Ouais, les chœurs enfantins, les synthés, des trucs plus atmosphériques. Bon, après, je trouve que niveau résultat, on est plutôt dans la moyenne basse de ce qui se faisait à l'époque. C'est pas honteux, c'est pas désagréable, non. Mais clairement, on n'en retient pas grand-chose, je trouve.
C'est ça, c'est très lambda.
Ouais, voilà. Le film, pour un budget de 3 millions de dollars, en rapporte 14,5, ce qui est plutôt une belle petite réussite et qui explique pourquoi il y a eu 36 000 suites.
Voilà.
Même si dès le deuxième opus, c'est Dimension Films qui récupère la franchise, New World Pictures n'aura plus rien à voir. Et par contre, les retours critiques sont beaucoup plus mauvais. Il y a quelques voix un peu plus chaleureuses, mais la majorité vont le trouver très prévisible et vont mettre en valeur l'ensemble, enfin la qualité médiocre de l'ensemble, en disant que c'est probablement dû à la rapidité de la production. Effectivement, ça s'est fait en quelques semaines au final. Alors de façon très surprenante, le magazine Rolling Stones le place 7e dans un classement des adaptations de King.
7e ?
Ouais, sachant que ceux qu'il y a devant, c'est Les Évadés, Shining, Stand By Me, Dead Zone, Misery et Carrie.
Et c'est quoi ce derrière du coup ?
Bah j'ai pas vérifié, mais c'est tout le reste hein, du coup.
7e, mais en fait ils ont regardé que cette adaptation du coup, non ? Rassure-moi.
Non, il y en a plus de 30 dans leur classement.
Ah la vache.
Ça veut dire que notamment la ligne verte est visiblement derrière.
Alors spoiler, Les Léons du Maïs ne sera pas 7e chez nous.
Ouais. C'est-à-dire que La Part des Ténèbres est visiblement derrière.
Ouais.
1408.
Ouais.
Et actuellement, il a 35% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, qui le place 17e de toutes les adaptations qu'on a évoquées pour le moment, et 4,8 sur 10 sur Sens Critique, donc remis en Allociné, ça ferait 2,4, ce qui le place 22e. King en a pas mal parlé de celui-là, puisque c'est une des nouvelles republiées dans Stephen King Goes to the Movies, qui est un recueil qui reprend des nouvelles qui ont donné lieu à des adaptations en film. Et à chaque fois, King fait une préface inédite où il parle de l'adaptation. Donc ça date de 2009.
Le film est une sorte d'exemple type des films d'horreur des années 70. Même le sang a l'air prêt à sniffer de la coke avant de danser sur les Bee Gees. Et il y a une réplique dans le film, vous noterez qu'elle n'est pas dans la nouvelle, qui fait encore rire mes enfants. Étranger, nous avons ta femme. Mais bon, c'est pas si nul. Ça a un côté le dieu d'osier, je trouve. Le premier, celui qui était bon. Et Linda Hamilton, pas encore auréolée de succès de Terminator, se donne à fond. Mais des fois, se donner à fond ne suffit pas. Des fois, la nouvelle est meilleure juste parce que l'imagination n'est pas soumise aux contraintes de budget. La version écrite est plus effrayante parce que le maïs est plus effrayant. Dans le film, il ressemble juste à du maïs. Dans le film, jamais il ne pourra rivaliser avec Dracula. A noter que Les Démons du Maïs a généré plus de suites nulles que n'importe quelle autre de mes œuvres. Je marque un point parce que ça me fait rire cette réflexion. Il y a au moins un Démon du Maïs 2, 3, 4, peut-être plus, j'ai perdu le compte.
Alors il a effectivement perdu le compte parce qu'à l'époque, celui de Borcher était déjà sorti, donc il y en avait au moins 8.
Ah oui. Si ma collection internet n'était pas morte à l'heure où j'écris ces lignes, je vérifierais s'il n'existe pas un démon du maïs dans l'espace. Je me dis que c'est presque possible. Le seul que j'attendais vraiment, c'était Les Démons du Maïs contre le léprochaune. Je voulais entendre ce petit léprochaune crier « Rendez-moi mon maïs !» avec son accent irlandais tout mignon.
Quand j'ai vu que papa bougeait plus, je suis allé prévenir Hotchkiss, le policier. Mais c'était trop tard.
Qu'était-il arrivé à ton père ?
Il l'avait tué. Et le policier ? Est allé à la grange après avoir parlé au prédicateur.
Le prédicateur ? Quel prédicateur ?
Malaki.
Étranger ! Étranger ! Allez par là, vous par ici, vous là-bas.
De chaque côté de la rue, d'accord ?
Suivez-moi.
Dépêchez-vous !
Étranger ! Étranger ! Nous avons ta femme ! Elle est encore en vie! Écoute, tu vas pouvoir entendre sa voix! Étranger! Elle va mourir, à moins que tu ne viennes! J'ai suffisamment attendu! La nuit tombe! Nous allons la sacrifier! Étranger! Tu m'entends? Tu m'entends? Réponds, étranger! Montre-toi! Montre-toi !
C'est elle que vous cherchez ?
Donc voilà, c'est comme je disais, King a l'air d'avoir un recul plutôt amusé sur ce film quand même.
Oui, ça a l'air.
En même temps, comment le traiter autrement ? Et nous allons justement pouvoir passer à nos avis. Je te laisse commencer.
Bah écoute, tu as répondu à une question que le monde entier se pose, à savoir... Comment ont-ils pu avoir envie de faire autant de suites à ce film ? Bah, tout simplement, l'argent, le premier, a rapporté un petit peu. Et je pense que les autres n'ont pas rapporté autant, malheureusement pour eux. Et peut-être, malheureusement pour nous aussi.
Alors déjà, il y a une grosse production value en chute libre dès le deuxième, parce que le budget passe de 3 à 1 million dès le 2.
Oui, parce qu'après, tu vends le film sur son nom et non plus sur des attentes spectateurs.
Ah bah oui, le spectateur, il attend plus rien, David.
Voilà, bah le 2 de son, on l'a pas encore vu, nous, donc...
Moi, si.
Ah,
on l'a pas encore traité, mais je l'ai
vu. On l'a pas encore traité. Parce que nous, pour l'instant, rappelons qu'on a traité, du coup, le premier, le quatrième, le premier remake,
ouais.
Et la suite du premier qui prend pas en compte tous les autres.
Alors non, c'est la suite du deuxième, remake, je crois.
La suite du deuxième remake.
C'est compliqué, hein.
Ah oui, c'est... Voilà. Bah... Rien n'est réellement réussi dans ce film. Que ce soit le jeu d'acteur... Alors après, par la force des choses, enfin moi, en tout cas, je n'ai pu le voir qu'en VF. J'ai pas réussi à me le procurer en VO. Donc, à la limite, le jeu d'acteur, bon...
Ouais, pour le coup, j'ai revérifié, c'est pas mieux en VO.
Voilà, mais c'est juste pour, par honnêteté, je préfère le signaler. La BO, bah, elle tombe à côté tout le temps, ce qui est dommage, parce qu'on l'évoquait en off, le thème principal avec le chant d'enfant, lui, est plutôt réussi et pourrait être effrayant. Le problème, c'est qu'il est jamais utilisé à bon escient.
Ouais.
Les effets spéciaux sont vieillots, le rythme est catastrophique. Vraiment, ça dure moins d'une heure et demie et t'as l'impression de passer deux heures devant ton écran. C'est incroyable, ce film est d'une lenteur abyssale.
Tout traîne en longueur.
Tout traîne en longueur, c'est incroyable. Il y a des scènes, mais ridicules, la scène avec le pompiste, mais elle est d'un ridicule, c'est incroyable. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce film, je comprends pas comment ça a pu être inscrit au panthéon des films cultes, parce que quoi qu'il en soit, même si c'est nul et que le monde entier semble d'accord pour le dire, c'est un film culte.
Ouais, bon, y a pas mal de films d'horreur de cette époque ou des années 90 qui me font un peu le même effet. Hein,
bah, typiquement, King le part en part, les Prochaunes, la saga du Les Prochaunes.
Ouais, à la limite, voilà. Celle-là, elle a un second degré qui fait que je comprends un peu mieux pourquoi elle a marché. Moi, je songeais plutôt à des trucs genre Souviens-toi l'été dernier, que je trouve assez nul à chier, et que visiblement considéré comme culte.
Oui.
Bref, c'est pas le sujet. Je suis assez d'accord avec toi, il y a quelques images qui marchent. Niveau effets spéciaux, je trouve surtout le nuage de fumée avec le feu du démon à l'intérieur vers la fin du film.
C'est le passage.
Ça, c'est vraiment beau. Après, c'est dommage que ce soit assez mal utilisé en termes de narration, parce que finalement, il arrive à la toute fin quand le démon est déjà en train de perdre. Donc, c'est pas utilisé comme une menace autant que ça pourrait l'être.
Et du coup, quitte à parler de cette scène, on peut faire le comparo avec le roman qui, du coup, avec le roman que la nouvelle, qui, elle, laisse planer le doute sur l'existence d'une entité mystérieuse. Même
la fin
si
de la nouvelle est assez claire.
Même si la fin est plutôt claire, mais quand même, c'est pas non plus totalement à 100% clair, je trouve.
Ouais.
Là, par contre, le film, lui, il va franco, quoi. C'est oui, il y a une entité mystérieuse, oui, il y a un démon du maïs qui existe, il est là. Il est là et il est matérialisé. On le voit pas, de plein pied, mais on sait qu'il est là.
La mort d'Isaac sur la croix quand il brûle, ça m'a fait penser au même effet dans...
Que le cobaye.
Dans le cobaye, avec le prêtre.
En encore moins bien réussi.
Ouais, c'est encore plus vieux.
Voilà.
Forcément.
Mais c'est... Oui, le passage est un peu ridicule, quand même. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Cette scène-là, la scène finale, vraiment, le nuage, l'entité qui les poursuit sous la terre, la musique, le feu dévastateur ensuite qui détruit le champ... Il y a quelque chose dans cette scène.
Alors l'entité sous la terre, moi j'ai trouvé ça un peu ridicule, mais c'est parce que ça m'a fait penser, tu sais, au vieux sac cartoon avec Bugs Bunny qui creusait de la même manière.
Je vois ce que tu veux dire. Mais il y a quand même quelque chose dans cette scène.
Ouais.
Tu vois, c'est... Le problème, c'est tous les autres éléments qui sont mauvais, bah ils sont toujours autant mauvais dans cette scène, quoi. Et donc forcément, t'as beau...
Bah, Linda Hamilton, celui qui joue son mari, et les enfants, enfin les deux petits-enfants, s'en sortent pas trop mal. Je trouve, pour moi, les gros problèmes niveau jeu, c'est Isaac et Malakai.
Ouais.
Qui, alors, les deux, je les ai vus dans des trucs où ils jouent beaucoup mieux, donc c'est probablement un problème de direction d'acteur. Mais ils cabotinent à fond de balle, et il n'y a pas un seul instant où je les trouve inquiétants, ils sont juste agaçants, en fait.
Ouais.
Donc ça, c'est un problème. Et le fait d'avoir décidé de mettre des adolescents plutôt que des enfants, pareil, ça marche pas très bien, parce que ce qui est inquiétant aussi dans Les Démons du Maïs, c'est le contraste habituel de films d'horreur entre un enfant qui est d'habitude
l'innocence.
Plutôt l'innocence et la faiblesse, et qui là tout à coup se retrouve à être démoniaque. Avec des adolescents, il n'y a plus du tout ce contraste. Tu te dis juste, c'est des jeunes de banlieue désœuvrés.
Oui, mais surtout des adolescents, Malaka, c'est quand même un adolescent vraiment proche, adulte quand même.
Oui, il a 19 ans.
À l'écran, il l'est fait, c'est 19 ans, donc voilà. À aucun moment, t'as un doute sur le fait qu'il puisse tenir tête à un adulte, lui.
Ouais, c'est ça. Puis finalement, il est juste dans la force brute, il n'y a aucun mystère autour de son personnage. Il y en a un peu plus autour d'Isaac, mais c'est pas foufou non plus.
Non. Et pareil, la toute première scène du film, donc le massacre dans le diner, aurait pu être réussi si le parti pris avait été de vraiment nous montrer les choses. Alors que là, tout est tourné façon slasher des années 90, tu vois, genre le slasher un peu pudique, qui veut attirer le public adolescent, mais qui du coup, pour ne pas être pénalisé, pour pas se taper une interdiction aux mineurs, doit ne rien montrer. Tu vois ce que je veux dire ? Genre tu vois seulement les couteaux s'abattre sur les victimes et tu ne vois rien d'autre. Et du coup c'est dommage parce qu'on a à peu près la même scène dans Runaways, dans le diner,
où
elle a un souvenir, un flashback d'un massacre qui se passe dans le diner, et là on voit. Et du coup la scène dans Runaways est beaucoup plus réussie que celle de ce premier film.
Le problème que j'ai avec cette scène dans le premier film, c'est qu'elle pose, en fait, de montrer le début de la prise de contrôle des adolescents, ça pose un peu la question de comment ils ont fait, c'est-à-dire c'est quoi la pyramide des âges dans cette ville. Parce qu'une fois qu'ils tuent tout le monde dans le diner de manière quand même un peu voyante, on peut se dire que toute la ville est au courant qu'il y a des enfants tueurs, et comment c'est possible déjà qu'ils se défendent pas plus, et comment c'est possible que personne ne soit alerté, qu'il n'y en ait pas le moindre qui puisse s'échapper.
Alors après, on explique que c'est la voix off de c'est Jacob, qui fait la voix off dans le film, il me semble que c'est ça le nom du gamin, explique que le phénomène
c'est
est arrivé.
Job, je crois.
Job, ouais. Que le phénomène est arrivé dans toute la ville. C'est-à-dire, genre, tous les gamins se sont concertés ensemble pour tous tuer tous les adultes qu'ils avaient autour d'eux à ce moment-là.
Ouais, après, enfin, du coup, comment ils sont assez nombreux.
Voilà, ça laisse la question du mais comment ils ont pu réussir à le faire quand même, parce que ça reste quand même des gamins. Donc,
Bah ouais, et puis ils sont pas tant que ça au final.
C'est-à-dire, passer la surprise de t'es là, t'es dans un restaurant normal, bon. Tu vois un gamin égorger quelqu'un, bon, ça te surprend, donc tu réagis pas dans l'instant T, parce que t'es surpris. Mais bon, au bout de quelques minutes, bon, tu réagis quand même, quoi. Le gamin, ouais. Tu lui fous une droite, quoi. Donc c'est vrai que c'est étonnant que ça puisse arriver à une ville entière, je vois ce que tu veux dire.
Ou alors, faut mettre ça sur le compte du démon, c'est le démon qui arrête tous ceux qui veulent s'échapper, mais bon.
En fait, c'est vrai que sur ça, on n'a pas beaucoup d'explications sur pourquoi les gamins sont devenus comme ça, tout comme dans le roman, au final.
Ouais, mais comme la nouvelle les prenait quand ils étaient déjà bien installés, au final, on se posait pas la question. Ou du moins, on pouvait se dire, c'est quelque chose qui a dégénéré avec les années.
Et toi, en fait, ce qui te dérange, c'est que du coup, on nous montre l'origine du truc sans expliquer l'origine du truc.
Ouais, voilà, c'est ça. Les questions se posent forcément dans ce cas-là.
Surtout qu'en plus, on te laisse supposer que les gamins qui ont fait ça, c'est les gamins qui ont assisté au dimanche à l'église, à la messe, parce que ouais. Job te dit que lui, il n'y a pas assisté, que lui et sa sœur, c'est les seuls enfants à ne pas y avoir assisté.
Ouais.
Donc, tu te dis, est-ce que ça viendrait de l'église ou quoi, mais après, on le ressort plus du tout, à aucun moment, il y a une explication, donc c'est très bizarre, oui, cette envie de vouloir expliquer sans expliquer, en fait.
D'ailleurs, ils sont très mignons, hein, c'est nos enfants, mais ils servent à rien en termes d'intrigue.
Non. Parce que la gamine, on t'explique qu'elle a des pouvoirs, que ce qu'elle dessine se produit, qu'en fait, elle voit le futur et qu'elle le dessine. Puis à aucun moment c'est vraiment utilisé de manière concrète dans le scénario, quoi.
Ouais, c'est ça. Globalement, on sent que beaucoup de trucs sont faits pour étirer la sauce. Hein.
C'est ça.
Il faut faire du reste à 1h30. Pendant la première heure et quart, en fait, avant le final, ça suit quand même assez fidèlement le récit de King, à l'exception de l'ajout des deux gamins, justement.
Oui, et à l'exception du fait que le couple est en brouille.
Ouais, voilà, ils sont plus proches dans le film, ce qui les rend un peu plus attachants, c'est déjà ça pris.
Oui. Que dans le film, oui, c'est vraiment un couple qui s'aime, hein. ils n'ont pas de problème, voilà.
Ouais, ils sont assez jeunes mariés dans le film.
Oui. Disons que la seule tension qu'il y a, c'est qu'elle reproche à lui d'être un peu trop focus sur son boulot, mais bon, après...
Ouais, c'est
pas... En même temps, quand tu te maries avec quelqu'un qui travaille dans la médecine, c'est difficile de lui reprocher d'être à fond dans son boulot, quand même.
Oui, c'est un peu une situation particulière.
Voilà.
Le dernier twist à la fin avec la gamine cachée dans la voiture, je trouvais qu'il était aussi carrément trop.
Oui.
On sent que c'est vraiment juste pour remplir le cahier des charges.
Et du coup, ça me fait. Ça me remémore cette scène extraordinaire, enfin, ce final, parce que le film se termine quand même par. Oh, on lui enverra une carte postale, hein.
Enfin... Ah oui, après, rien à battre sur la fin.
C'est extraordinaire, quoi. Donc, on vous remet la scène en tête si vous l'avez vue et on vous l'explique si vous l'avez pas vue. Le fiancé donc rentre dans la voiture pour choper la carte parce qu'il se dit bah on a plus de bagnole donc on va aller à pied jusqu'à la prochaine ville. Que faire d'autre après tout?
Oui.
Il va dans la voiture et là l'une des gamines de cette secte lui saute dessus qui était dans la bagnole et elle essaie de le tuer. Donc je crois que c'est sa nana qui arrive à le sortir de là et qui arrive à assommer la gamine. Et le film se termine vraiment par qu'est-ce qu'on va faire d'elle ? Oh, on s'en fout, on lui enverra une carte postale. Voilà, c'est super.
D'ailleurs, pourquoi ils ont besoin d'une carte ? Il y a une putain de route dans ce... Enfin, dans cet état, j'ai l'impression.
Parce que après, ils ont pas l'air très très doués, donc...
Ouais, certes, bon.
Je rappelle quand même cette scène extraordinaire où le mec lance son cocktail Molotov, il le lance, sauf qu'en tombant, le cocktail n'explose pas. Du coup, le gamin court vers la bouteille pour la récupérer et le ramener au mec. Mais gamin,
ouais.
Tu l'as, pourquoi tu la lances pas ? Pourquoi tu reviens vers le cas ? C'est très bizarre.
Il se dit peut-être c'est dangereux, je vais pas le lancer.
Il y a des réactions assez étranges dans ce film.
Bon, la photographie est pas top, ça aide pas à l'ambiance en fait. C'est très plat.
Ah oui.
C'est dommage, je pense que c'est... Enfin, il y avait des trucs à faire, c'est pas dur de créer un peu de jeu dans une ville abandonnée, surtout parce que les décors en soi sont pas mauvais.
Non, oui.
C'est vraiment juste la manière dont ils sont filmés qui fonctionne pas.
Ils sont filmés de manière lambda en fait.
Ouais.
Ils sont pas filmés de manière inquiétante, ils sont filmés comme tu filmerais une ville habitée. Donc bah, t'as aucune raison de t'inquiéter au final.
Donc voilà, c'est pas un film sur lequel j'ai grand chose à dire moi, sorti de ça. C'est.
Bah non, non plus.
C'est
hein.
Chiant.
C'est chiant. c'est chiant, c'est pénible, c'est longuet, et voilà, y a pas grand chose qui va quoi.
On va se pencher un peu plus sur une scène du film. C'est parti, à tout de suite. Donc, en scène, nous avons choisi une scène qui se situe vers les deux tiers du film environ, parce que pendant la première partie du film, on sent qu'il y a des tensions entre Isaac et Malakai dans le groupe des enfants démoniaques, et Malakai finit par destituer Isaac.
Nous devons sacrifier ce couple cette nuit.
Amos lui suffira pour l'instant. Mieux vaut attraper l'homme grâce à cette fille.
Non, nous n'avons pas besoin d'elle pour le prendre. Cette femme ne doit pas bouger d'ici. C'est un lieu saint.
L'un doit servir à attirer l'autre comme un appât.
Non, tu blasphèmes, Malakai. Tu ignores les lois. C'est normal, il ne parle qu'à moi.
Non, ça j'en doute, Isaac. Tu as baissé très fort dans son estime. Il aime mieux les sacrifices que les cérémonies.
Mensonge ! Mensonge ! Sacrilège ! Agenouille-toi, hérétique !
Écoute-moi, Isaac. Tu n'es plus qu'un monstre d'orgueil. Celui qui règne en maître sur les sillons a décidé ta perte.
Réagissez, abruti ! Attrapez-le ! Faites-le plier ! C'est moi qui commande ! C'est moi ! C'est moi le seul qui transmet la parole. Donc me désobéir, c'est désobéir au Seigneur. Vous entendez ? Obéissez-moi ou bien votre châtiment sera de périr dans les souffrances les plus horribles qui soient.
Ils ne croient plus à ce que tu racontes. C'est moi qu'ils écoutent. Détache la fille. Mettez Isaac à sa place. Nous verrons comment le Seigneur te protège.
Non ! Honte à toi ! Tu blasphèmes ! Il te punira. Tu connaîtras l'enfer. Et vous aussi ! Non !
Alors, cette scène, qu'est-ce qu'il y a à en dire, Christopher ?
C'est le film qui, comme à son accoutumée depuis le début, tente de rallonger la sauce, en voulant foutre un retournement de situation, et qui ne sert à rien, au final.
Ouais.
Mais c'était intéressant de revenir dessus, parce que c'est ce que le film essaye de faire ad vitam aeternam depuis son début, en fait. C'est un piège dans lequel il s'est lancé, et... C'est très étrange de vouloir faire ça au lieu de se limiter évidemment au scénario que tu essayes de suivre, de vouloir sans cesse rajouter des trucs. Alors c'est bien de vouloir rajouter des trucs, de vouloir développer ton univers, mais si ça sert à rien, bah ça sert à rien.
Le souci c'est que là c'est mal développé et en plus ça nuit encore un peu plus au mystère du culte parce que t'entres un peu entre guillemets dans leur politique interne, donc ça les rend beaucoup moins cryptiques, beaucoup moins mystérieux, tu connais trop de choses d'eux. Et comme c'est maltraité, alors qu'à la limite, une division, une guerre entre les deux cultes, ça aurait pu être intéressant avec les héros pris au milieu. Mais bon, y a pas assez de temps pour faire ça au stade où ça arrive.
C'est ça. Bah, ou alors t'essayes d'expliquer un peu pourquoi Malakai veut se rebeller. Parce qu'en fait, tu te doutes que Malakai veut se rebeller parce que il arrive à l'âge où il va se faire buter. Donc ouais, au bout d'un moment, t'as peut-être pas trop envie de te faire buter, donc tu te rebelles, quoi. Parce qu'on nous l'a montré un petit peu dans la scène d'avant, on voit à l'église qu'il y en a un qui est prêt à se faire sacrifier, en fait.
Ouais, parce qu'il arrive à un certain âge.
Il arrive à l'âge adulte. Mm. Parce que le personnage principal tombe sur le journal et il voit que, à partir de 19 ans, il n'y a plus trace des gamins, qu'est-ce qui se passe ? Ils se font zigouiller, pour bon monsieur. Donc voilà, le film tente de te développer des trucs, mais le problème, c'est qu'au final, il ne les développe pas plus que ça. Et mis à part rajouter du temps mort à son intrigue déjà morcelée de temps mort.
Puis finalement, à part Malakai et Isaac, tous les autres enfants sont très anonymes.
Ils
prennent pas position. Si justement dans l'église, il y a une fille qui est un peu plus active.
Mmh. La fameuse qu'on retrouve à l'arrière de la voiture et qu'on verra en carte postale.
Ouais.
Elle a de la chance, elle sera en couleur d'ailleurs, la carte postale.
Ah bah oui.
Le personnage précise, mais en couleur.
On avait encore des cartes postales noir et blanc à l'époque ?
Je pense pas, mais ça doit être une réflexion.
Information historique à vérifier.
Ça doit être une réflexion vis-à-vis de. C'est une secte un petit peu vieillotte, donc du coup.
Ouais.
C'est moyenâgeux.
T'as peut-être raison, ouais.
Je pense que c'est pour ça qu'elle a fait cette réflexion-là.
Donc voilà, c'est une scène qui aurait pu amener un twist intéressant, bien dirigé, et qui aurait pu en plus renforcer la critique de tout ce qui est mouvement religieux, qui finissent souvent par s'entre-déchirer. C'est souvent un problème de ces mouvements-là, révolutionnaires. D'ailleurs, pas que mouvements religieux, les mouvements révolutionnaires, en général, hélas, ont souvent tendance à tomber à cause de dissensions internes. Mais fallait à ce moment-là y consacrer beaucoup plus de temps, et pas juste en faire un rebondissement vite fait.
C'est ça.
Puis surtout, ça fait que je me rends compte que dans le film, il y a énormément de moments où on n'est pas avec le couple de héros, au final, alors que c'est censé être eux les protagonistes. C'est très souvent qu'on suit soit Isaac et Malakai, soit les deux gamins.
Soit les deux gamins. Dans des scènes qui ne servent absolument à rien. Il y a quand même une scène qui doit durer 3 minutes où c'est une partie de Monopoly, quoi.
Ah oui, je l'avais oublié, la partie de Monopoly.
Et ça ne sert à rien, mais vraiment à rien du tout.
Alors, soyez heureux qu'on vous ait pas mis ça en extra audio.
Même la fin ne veut pas se terminer, quoi. Parce qu'à la fin, quand ils sont prêts à partir, qu'est-ce qu'on fait des enfants ? Oh, on va les garder un week-end. Ah, mais non, pas un week-end, on va les garder 8 jours. Tout le monde rigole. Mais termine ton film !
Ouais, c'est ça. Adopter ces gamins, ils ont l'air gentils.
Termine ton film. Adopte les gamins. Balance-les dans le maïs.
Ouais, ils ont l'air gentils, ces deux-là. Ouais, en plus, elle dessine bien, la petite.
Oui, enfin bon. Elle dessine des trucs de mauvaise augure, en général.
On dessine ce qu'on peut, hein. Tu sais, la muse de l'imagination.
Ouais, oui.
Qu'est-ce qu'on fait ? On passe au classement ?
Ouais, je pense qu'on peut passer au classement. Hein.
Allez, c'est parti. Alors, nous n'avons que le film à classer, donc notre classement film actuellement, aux trois premières positions, nous avons Carrie de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom et No Smoking d'Anurag Kashyap. Et aux trois dernières places, nous avons Jesse de Mike Flanagan, Le Fléau de Mick Garris et Doctor Sleep de... Oh bah tiens, Mike Flanagan. Quelle surprise. Et donc, où est-ce qu'on met les démons du maïs là-dedans ? Je regarde un peu...
Je pense qu'on peut allègrement regarder vers le bas du classement.
Ouais, très clairement, c'est plutôt vers le bas. Très sincèrement, je me demande si je me suis pas un peu plus fait chier devant celui-là que devant le 4.
Ah oui, clairement oui. Parce que le 4, au moins, avait quelques bonnes idées, notamment avec l'utilisation du sang.
Ouais.
Avec le démon, l'entité qui sort du sang pour tuer à un moment... Dans l'hôpital, là, dans l'espèce de clinique.
Ouais, c'est ça. Les meurtres étaient pas trop mal foutus.
Les meurtres étaient originaux, hein, originaux.
Ouais.
Les meurtres étaient originaux dans le 4. Et surtout avec ce brancard.
Oui, c'est totalement improbable. C'était débile, mais bon.
Ce brancard cutter géant. C'était pas mal, ça.
Ouais, après, la place exacte, je saurais pas dire.
Est-ce qu'il y a une meilleure scène que la scène de Trucks avec la combinaison qui prend vie et qui tue un mec à l'arrache?
Ouais, non, en fait, effectivement, t'as pas tort. Limite, même la scène du petit camion dans Trucks, elle est mieux.
Donc, en fait, ça va être à la même place que les démons du maïs, quoi, de Borcher. C'est compliqué, quand même.
Ouais, mais au-dessus, quand même.
Au-dessus ?
Je le trouve un peu mieux que les démons du maïs de Borcher.
Oui, parce que du coup, on perd la sympathie des personnages.
Voilà.
Les démons du maïs de Borcher.
Puis il y a l'effet de fumée qui est joli.
À la fin, ouais.
Il n'y a vraiment pas de beaux effets dans celui de Borcher.
Voilà, c'est ça. Après, là, c'est vraiment... on fait ça sur des détails.
On est sur deux mauvais films, mais disons un peu au-dessus.
Voilà.
Bon, ça va.
Moi, ça me va. Hein.
Bon, bah, c'est vendu. Donc, ça veut dire que c'est la 25e place pour Les Démons du Maïs de Fritz Kirsch, le film original qui a lancé toute la saga. Ça donne une idée de l'ensemble. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour parler de The Mangler Reborn.
Et on est très contents.
On est ravis.
Ouais.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux.
@cinémaarchiviste pour toi, @augrédébulle pour moi.
Ouais, sur Twitter. Vous pouvez nous retrouver dans d'autres podcasts qu'il faut vraiment qu'on reprenne.
Oui.
Casse sur table, consacré aux nouveautés et aux mangas, comics, BD, voilà. Et La Guerre des Clapes, consacrée au cinéma de manière générale, que nous animons avec le Necronomicon.
Vous pouvez également nous retrouver sur Discord, le lien sera dans la description de l'épisode.
Et en attendant, nous vous disons à bientôt, et n'oubliez pas que...
Le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
À plus.
Salut.